Cinquième partie. Charles Duguay revenait aux Éperviers, le sieur Tenaille et sa compagne Antoinette Béchaigne, dite Choléra. Le détective les avait cuisinés en conscience. Tenaille, vaste fripouille sournoise, qui cachait une ruse de targui sous une apparence bestiale, avait résisté selon les règles. Il connaissait, pour en avoir bénéficié, l'effet des dénégations sur l'esprit, sinon des juges, du moins des jurés. Mais Duguay sut lui faire croire qu'on l'avait donné. Il ne le crut qu'une minute. Mais ce fut assez pour provoquer une explosion de colère et déterminer un bref aveu qui confirmait celui de Martin. Après quoi, le drôle se referma comme une boîte et garda le silence. La demoiselle Choléra parut d'abord plus obstinée que Tenaille. Elle observait l'inspecteur avec vigilance et lui posait autant de colle qu'il en posait lui-même. Puis, soudain, elle changea d'allure. Ben, je crois bien qu'il est foutu, remarqua-t-elle avec élégance. Alors, c'est pas la peine que je le sois avec lui, puis que j'ai rien fait et puis rien. Même des fois, vaudrait mieux pour lui que je parle carrément, car il n'est pas le plus coupable, c'est le petit gosse qui a monté le coup. Dès lors, elle donna des détails surabondants. Duguay crut même remarquer qu'elle y mettait de la complaisance et qu'elle chargeait adroitement son homme. Il ne se trompait point. Choléra avait soudain pris Tenaille en grippe et aspirait à lui donner un successeur. Ce n'est pas qu'il eût des torts envers elle. À sa manière, il avait déployé des qualités de paladin et il casquait sans parcimonie. Elle ne l'aimait pas, voilà tout. Elle trouvait qu'il abusait du droit d'être herculéen et en voulait aussi d'être un assassin et un assassin roulé par les mouches. Au reste, elle n'était pas de la race qui s'attache aux vaincus. Elle aimait frénétiquement la victoire. La défaite lui paraissait plus dégoûtante en raison même de la force de Tenaille. Et à quoi servaient ces pommes de terre si c'était pour être pincées comme une tourte? Et par elle, Duguay sut que l'instigateur du crime était un petit gonce au teint mastic, avec de fines moustaches rousses et des cheveux blonds. Elle avait remarqué ses dents à cause de leur petitesse et ses yeux à cause de leurs cils tout raides. Il avait l'accent du midi. Tenaille ne le connaissait pas. Il s'était présenté à l'improviste dans un bar de la Râpée chez le père Chenirc. Le bandit l'avait suivi dans la rue. Ils avaient causé au bord du fleuve. Et Choléra savait que le petit homme, après avoir expliqué le coup à faire avec la dame des Éperviers, avait promis 25 000 francs si on lui procurait le grand brillant qu'elle portait toujours sur elle. On devait se revoir le surlendemain du crime dans un autre bar, au Boc Géant. Tenaille avait engagé Courtéchelle et Martin le premier parce qu'il était un poteau, parce que l'autre parce qu'il venait de la campagne. « Mais j'y ai dit de ne pas zigouiller la gonzesse !» affirmait Choléra. « Je suis pas pour qu'on estourbisse, ça coûte trop cher. Il a promis, puis alors ils ont tiré le cocher. » Oh, quand j'ai su ça, Ça m'a foutu un coup dans les sangs. Tant qu'au petit gosse, bah, on l'a pas revu. Duguerre avança autant de détails que possible. Il amenait tenaille et choléra avec la conviction que personne n'aurait déployé plus d'astuces qu'il en avait déployé dans cette circonstance. Mais il ne goûtait qu'une satisfaction médiocre. L'X continuait à lui échapper. Tenaille comparut devant le juge et réclama un avocat. Il daigna se contenter de celui qu'on fit venir de B. Au rebours, choléra déclara qu'elle n'avait aucun besoin de ces oiseaux-là et confirma tout ce qu'elle avait avoué à l'inspecteur. Au total, le nouvel interrogatoire n'apprit rien de nouveau. Dubard, confiant dans la cuisine de détective, montra une aimable nonchalance. Il était ravi. De quelque façon que tournant l'affaire, on tenait de bon et beau coupable, passible de la guillotine ou, tout le moins, des travaux forcés. Le juge ne tempérait pas ses lèvres dans la liqueur amère du non-lieu. Comme il avait désiré, on permit à Michel de voir Tenaille. La brute ne consentit à desserrer les dents que pour marronner d'obscures ou obscènes goguenardises. Lorsque Simone parut devant Choléra, la fille montra tout d'abord une froide insolence. Oh, mais faudrait voir à Pomme Barbée, vu que le rasoir il arrête pas depuis hier. Madame, fit doucement Mademoiselle de Vaugelade, vous pourriez peut-être nous rendre un grand service et nous saurons montrer votre reconnaissance. Cette rude choléra appréciait la politesse quand elle s'adressait à sa personne. De plus, elle comprit qu'il y avait dans l'espèce plus à gagner qu'à perdre. Elle secoua son épaisse tignasse crépelée et, fixant sur la jeune fille ses yeux de maugrabine, grommela: Mais les girondes, et puis malines. Et puis Panteigne! Et reprit à voix haute. On n'est pas si rose qu'on en a l'air, alors. Quoi qu'il y a pour votre service. Je voudrais que vous me disiez tout ce que vous savez sur l'homme qui a été l'instigateur du crime. Bon, c'est pas grand-chose, enfin, ce sera comme vous voudrez. Il suffit de lui poser quelques questions pour qu'elle partît à fond de train. Elle avait une rétine de sauvagesse qui retenait puissamment les images. Elle décrivit avec détail l'aspect physique, les particularités, les gestes de l'individu qu'elle avait vu au bar du père Conique, essaya d'imiter son accent et jusqu'au timbre de sa voix. Une voix qui était, comme qui dirait, plus jeune que sa figure. Simone se faisait répéter les détails, non seulement pour mieux se les fixer dans la mémoire, mais encore parce que les répétitions s'enflaient de caractéristiques nouvelles. Et quand elle crut avoir tiré de choléra tout ce qu'on pouvait en tirer, elle dit: je vous remercie de tout cœur. Vous pouvez compter sur mon frère et moi. Oh bien, fit choléra, estomaqué par cette bonne grâce. Si encore vous n'êtes pas une vache. L'après-midi, Duguay fit avec Martial et Michel une longue randonnée. On avait maintenant interrogé tous les habitants du pays, dont un seul demeurait suspect. C'était un solitaire, un peu fou, qui habitait, au-delà des trois sources, une tanière jadis utilisée par les sorciers et par les huguenots. Il y menait une vie famélique et se montrait violemment misanthrope. On le redoutait, on lui confiait de menus travaux pour l'amadouer, on lui achetait des objets qu'il façonnait avec un couteau et des morceaux de bois. Personne ne pouvait l'accuser d'un délit grave, mais on le soupçonnait de manigance. En tout cas, on le croyait capable d'un mauvais coup. Martial, Simone, Michel avaient successivement interrogé ce personnage. Il répondait avec insolence et d'un air équivoque. « Ben, faudra voir, » disait Barguigne. Michel, qui avait pour lui une vive antipathie, croyait qu'il avait pu finalement être mêlé à l'aventure de Francisca. À tout hasard, le détective se décida à prendre personnellement contact avec le solitaire. Les trois hommes arrivèrent auprès de la caverne vers 4 heures. Rien n'en défendait l'entrée qu'une espèce de trappe grossièrement fixée au roc et qu'il était facile de forcer sans laisser de traces sensibles. « Cherche, dévorant, marche, loup-garou !» fit l'errant après avoir longuement frappé. L'attitude des chiens montra qu'il n'y avait personne dans la tanière ni aux alentours. « Monsieur, on entrait !» fit Martial après un silence. « Oh non, pas en ma présence !» répliqua prudemment le détective. L'errant eut son sourire muet sauvage. « Mais il n'est pas chez lui, là-dedans » remarqua-t-il. « Cette caverne appartient à Madame d'Escalante, qui est maîtresse de cette partie de la forêt. » « Mais il a raison, » affirma Michel. « L'homme y vit par pure tolérance. D'ailleurs, soyez tranquille, c'est pas lui qui réclamera. » Duguay fit un geste évasif. Martial, après quelques tâtonnements, dégagea la trappe et la souleva. Un trou ténébreux apparut d'où se dégageait une odeur plutôt nauséabonde. « Ça sent la bête !» remarqua le rôdeur. Délibérément, il entra dans la caverne avec Dévorant et Loup-garou. Il avait allumé sa petite lanterne de corde et explorait minutieusement le sol et les parois. « Voilà !» dit l'errant. Il ramenait, parmi de menus objets, une bague sertie d'une grosse émeraude qu'il alla montrer dehors à Michel. Michel devint très pâle. « Mais c'est à elle » chuchota-t-il. « Attention !» dit Martial. « Cachez la bague, monsieur !» Un homme venait de jaillir d'un fourré. Il ne voyait pas le groupe dont on le séparait des feuillages. L'homme s'était arrêté, méfiant. Il tournait de tous côtés un énorme visage couvert d'un poil gris et rêche qui figurait exactement le poil du sanglier. De petits yeux triangulaires scintillaient entre des cils non rades. Le nez affectait presque la forme d'un sabot et la lèvre retroussée découvrait une solide denture jaune où les canines saillaient ainsi que des canines de vieux léopards. Le masque était convulsé, farouche et dément. Martial alla à sa rencontre, et l'autre fit un geste de défense et ses prunelles s'emplirent de fureur sournoise. « Qu'est-ce que tu veux, l'homme aux bêtes ? » cria-t-il. Loup-garou et dévorant s'étaient glissés furtivement des deux côtés. « Non, je te veux pas de mal, » répondit Barguigne. « Tu me connais, Mazergue. Je ne te veux de mal qu'à ce qui m'ennuie. Alors je vais te donner un conseil, bien bon. Dis la vérité sur la bague. »« La bague ?» clama le solitaire dont les poings velus se levèrent. « Et qu'est-ce que tu veux dire ?» La tête hagarde oscillait comme une branche dans l'ouragan. Mais tu le sais bien, reprit insidieusement le rôdeur. Vois comme tu trembles. Crois-moi et dis la vérité. Si tu la dis pas, ton affaire est sûre. Si tu la dis, oh, y aura à voir une récompense. Marzargue continuait à grelotter. La haine, le vertige, la rage de la bête tombée dans la trappe apparaissaient sur ses traits bestiaux. Et il reprit dans un grondement. « T'es entré chez moi ? » Je ne te le fais pas dire. C'est comme si tu avais avoué que tu avais la bague. « Allez, faut dire maintenant d'où elle vient, faut le dire, ou bien n'aie pas de doute, tu iras moisir en prison, et tu penses si on finira par savoir tout de même. »« Ne te pas un juge ?»« Non, répondit Martial d'un air mystérieux. »« Aussi je ne l'ai pas dit de me parler à moi, mais à ceux qui vont venir, qui t'ont entendu et qui savent que tu avais la bague. » « Ils m'ont entendu !» fit le solitaire avec ahurissement. « Ils t'entendent !» Martial fit un signe. Des branchages frémirent. Le détective et Michel se montrèrent à leur tour. Leur apparition troubla jusqu'au tréfonds la mentalité chaotique de Mazargues. Il connaissait Michel et le redoutait. Et il ne douta pas que Duguay, avec son bizarre visage glabre, ne fût un juge. « Où avez-vous pris la bague ? » fit celui-ci de la voix dont il cuisinait les criminels à mentalité simple. « Mais que comme fera ?» demanda l'autre avec une épouvante d'enfant. L'inspecteur le considéra un moment en silence, en faisant cet œil fixe et rond à l'aide duquel les commissaires de police hypnotisent les naïfs. Il avait tout de suite classé Mazargues. Si cet homme savait quelque chose, l'aveu jaillirait infailliblement de sa bouche. Si vous n'avez rien fait à la dame des éperviers, on ne vous fera rien non plus, risqua-t-il. L'épouvante tomba en quelque sorte de l'énorme visage comme un voile. Rien? Duguay secoua la tête. Il se sentit certain que le solitaire était étranger au drame. Aurait-il parié avant même de sortir de sa retraite? Une brute de cette épaisseur ne pouvait être utilisée que par raccroc. Non, rien, affirma encore l'inspecteur. Il y aura même de l'argent pour vous. Oui, vous aurez 100 francs, ajouta Michel. 100 francs? À cette manière de gorille, la somme semblait aussi fantastique qu'un million. Il n'avait aucun moyen d'en calculer la valeur vraie. Il savait seulement que ça pouvait se composer de 20 pièces, 5 pièces de 20 francs, et jamais sa main velue ne s'était refermée sur plus d'une pistole. J'irai tout, fit-il d'une voix défaillante. Duguay se recueillit un instant et reprit. Vous avez vu la dame?
Oui.
Où? Là-bas, fit l'homme en étendant le bras, sur la chambre des biches. Et quand?
Je sais pas, il y a plusieurs jours, vers la brune. J'étais dans le taillis. Elle pouvait pas me voir, mais moi je la voyais bien. Elle descendait vers le clair des sonneurs.
Vous en êtes sûr? Intervint fiévreusement Michel.
Si j'en suis sûr, ricana stupidement Mazarg, qui a comme de mes pattes. Et puis je l'ai plus vue. La chante s'enfonce dans la broussaille.
Vous ne l'avez pas suivi?
Pourquoi? J'avais rien à lui dire.
Et la bague?
Je l'ai trouvée,
répéta 3 fois l'homme, saisi d'un retour de crainte.
Dans la sente? Non, plus haut, pas loin des 3 sources.
Il y eut une pause. Personne ne doutait. Michel lui-même avait senti tomber ses soupçons. Une sincérité morne émanait de la bouche pesante, des yeux sanglants, de la grosse voix effarée qui rappelait le meuglement des taureaux.
C'est bien tout ce que vous savez, redemanda le détective.
Je peux claquer là, affirma elliptiquement Mazarg.
Eh bien, on vérifiera, dit Michel. Si tu as dit vrai, tu auras les 100 francs. En attendant, voilà un acompte.
Il tendait un louis. L'autre saisit le disque jaune avec un cri sourd, le contempla avec stupeur, et l'enfouit sauvagement dans sa poche.
Nous tournons en rond, remarqua Duguay, tandis que les 3 hommes s'en retournaient vers le château.
Certes, le témoignage de ce crétin n'est pas absolument inutile, mais c'est tout comme. Nous savions que Madame de Scalante vivait encore vers le soir. Martial avait indiqué la serre des biches comme une des voies probablement suivies par la fugitive. Il a fait de ce côté son enquête.
Il n'y avait qu'à faire le terrain et interroger la Madeleine, qui est une amie du Carso.
Il a mis sûr, appuya Michel, et qu'il n'a rien vu. Ben autant dire que nous revenons bredouille, repartit l'inspecteur d'un ton maussade. Quand on retrouvait encore deux ou trois objets appartenant à Madame de l'Escalante, cela ne nous apprendrait absolument rien. C'est un fait nouveau qu'il faudrait. J'entends un fait d'une nature nouvelle. Oui, mais celui-ci aurait pu en être un, dit Michel. Et même un fameux, approuva le détective. Car si notre adversaire avait utilisé le nommé Mazargues, cela signifierait, je pense, une modification subite du plan primitif. Pourquoi? C'est trop simple. Le plan primitif, n'est-ce pas? C'était de faire tuer Madame de Scalante par Tenaille, Courtéchelle et Martin. Ce plan raté, il fallait ou abandonner la partie, ou avoir un plan de rechange, ou improviser quelque chose. Puisque la victime n'a pas reparu, c'est qu'il y a une suite aux premiers événements. Un ou des personnages inconnus sont entrés en action. Lesquels, alors? L'instigateur lui-même? Un ou des complices engagés d'avance? Un ou des complices recrutés au hasard? Dans le cas où Mazargues aurait participé au crime, la dernière hypothèse devient la plus plausible. On ne prépare pas quelque chose avec un pareil animal. Ai-je besoin d'insister sur l'importance que cela pouvait avoir au point de vue de nos recherches? Oh non, répondit Michel d'une voix sombre et avec un frémissement de terreur. Il semblait clair, en effet, que si le solitaire avait participé aux contingences, la mort de Francisca s'en fut suivie. Vous n'ayez plus d'espoir, fit-il avec détresse. Le détective scia. Sa face prit cette roideur sous laquelle il dissimulait ses pires impressions. Il croyait sincèrement que Francisca était morte. Ce point d'ailleurs ne l'avait jamais beaucoup intéressé. Sa mauvaise humeur venait de ce que l'affaire n'offrait aucune prise. Les dernières découvertes apparaissaient décevantes jusqu'à en être dérisoires. « Mais au moins de là, mentit-il. Nous avons maintenant la certitude que Madame de Scalande vivait au crépuscule. On avait encore perdu sa trace, sinon elle n'eût pu quitter les Roches Bleues. Il y avait plus d'une heure qu'elle avait dépisté les premiers poursuivants. Il entreapercevait une machination dont il préférait ne rien dire, ou bien un coup de hasard qui avait livré l'infortuné à son ennemi. Les conjectures se succédaient sans nombre, dont aucune n'avait de consistance. L'automobile les attendait sur la route des Loups. En 10 minutes, ils atteignirent les éperviers et Michel se rendit auprès de Simone, suivi de près par le détective. Ils la trouvèrent dans le petit salon. Elle se livrait à une occupation qui, dans la circonstance, parut insolite aux deux hommes. Elle peignait. À la vue de son frère, elle jeta une feuille de papier sur son travail et demanda « Eh bien, oh, rien du tout, répondit le jeune homme. Il raconta successivement ce qui s'était passé avec Mazargues. Elle écoutait, pensive. Elle posa quelques questions précises. Et voilà, fit Michel en haussant les épaules. Oui, nous revenons bredouille, appuya Duguay. Une agitation croissante faisait palpiter la jeune fille. « L'automobile est là ?» Et comme Michel faisait un signe affirmatif, Oh, il faut retourner là-bas, affirma-t-elle. Je vous accompagnerai. Michel et le détective regardaient la jeune fille avec stupéfaction. Mais retourner là-bas, fit enfin ce dernier, et pourquoi faire? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais elle ne parla pas. Eh bien, demanda Michel. Oui, il vaut mieux que je ne te le dise pas, fit-elle avec décision. Duguay l'épiait sournoisement. Il commençait à la connaître et savait qu'elle ne parlait pas à la légère. Ils étaient ensemble curieux et un peu choqués. Quant à Michel, tout ce qui le ramenait vers l'action était bienvenu. « Allô ? » fit-il. 5 minutes plus tard, l'automobile roulait vers la forêt. Au moment où on allait dépasser le village, Simone cria au chauffeur « Conduisez-nous chez le docteur Farès !» La voiture s'engagea dans une route latérale et s'arrêta devant une maison à tourelles qui tenait de la ferme et de la gentilhommière. Le médecin était chez lui. Quinquagénaire, au visage bistre et aux yeux fins, ses facultés le désignaient pour une carrière brillante, mais son goût pour l'alcool le condamnait à l'obscurité. Il ne fit aucune question, étant un animal de l'espèce taciturne, et se joignit au groupe. Quand on eut atteint la croix de Javard, Simone donna de nouveaux ordres. L'automobile s'arrêta au lieu dit le clair des sonneurs. « Alors, décidément, nous allons la sente des biches !» grommela Michel. Oh, « Nous allons chez Madeleine Lavragne. » L'inspecteur redressa la tête. Son œil trahit une sorte d'agitation. « L'ami du château » demanda-t-il. « Oui. » L'œil devint fixe et vitreux. Dix hypothèses se mirent à danser à sarabande dans la caboche inventive de Duguay. La somme des biches passait à 20 oises du clair des sonneurs. Elle était en pente douce. On discernait en amont la broussaille où Mazargue affirmait avoir vu disparaître Madame de l'Escalante. Le détective scruta le site. « Mais qu'est-ce qu'elle espère ?» se demandait-il, agacé. Simone ne pouvait évidemment rien espérer de la femme Lavragne, qui avait déjà affirmé ne rien savoir. Tandis qu'il méditait, on arrivait devant une habitation assez bizarre, construite en planches et couverte de bardeaux. La mousse et le lichen y poussaient à foison. Des giroflées fleurissaient aux murailles, des joubarbes sur le toit. Étroite mais singulièrement longue, elle donnait accès par une petite porte à l'extrémité sud. Sur la demande de Simone, Michel frappa 2 fois. La porte s'ouvrit lentement et l'on vit paraître une vieille femme, grande et mince, qui, malgré l'âge, paraissait très souple. « Hé là, que bonne surprise » cria-t-elle. « V'là Monsieur Michel et la chère demoiselle. Quoi qu'il y a pour votre service ?»« Nous allons vous le dire, mais dans la maison !» fit résolument Simone. Elle était pâle et tremblante un peu. Duguay, qui ne la perdait pas de vue, se dit elle doute. » Madeleine, branlant du chef, entrefermait ses yeux jaunes. « Oh, ce sera bien de l'honneur de vous recevoir !» répondit-elle après une courte pause. Simone entra la première, suivie de près par Michel et le détective, tandis que le médecin retardait. Quand ils furent dans la chambre étroite et basse, où l'on apercevait un fourreau du temps de Louis-Philippe, une table à demi défoncée et des escabeaux rudimentaires. Madame de Vaugelade, mademoiselle de Vaugelade, saisit la main de la femme et lui parla avec une douceur impérieuse. « Madeleine, pourquoi ne nous avez-vous pas dit la vérité ?»«
Quelle vérité ?»
fit la vieille, dont le visage apparut sauvage et plein de ruse.
« Mais nous vous connaissons, Madeleine, » reprit la jeune fille.
« Nous savons que vous êtes toute dévouée à Madame de Escalante. Mais il n'est plus temps de cacher votre secret. Nous savons tout. »«
Tout ?» croissa la vieille. « Ben, c'est beaucoup plus que moi. »«
Nous allons bien voir, » dit Simone. Et se tournant vers le détective,
« Veuillez nous attendre un moment. Mon frère et moi, nous allons visiter la maison. »«
Mademoiselle, » fit la femme, qui devint blême sous son bistre, « vous ferez pas ça. »«
Ah, enfin !» s'écria la jeune fille d'une voix éclatante. « Viens, Michel, nous allons savoir. »
Madeleine fit signe de leur barrer la route, puis elle eut une espèce de spasme, mais... tout à coup.
Ben, puisqu'il n'y a rien à faire, tant mieux. Elle est dans la chambre du fond.
Il y eut un moment de stupeur. Simone semblait égarée. Michel demeurait sans souffle, haletant d'espérance et de la terreur d'avoir mal compris. Le détective, cachant sa curiosité, montrait une agitation mêlée de dépit. Seul le docteur Farès gardait ce sang-froid que lui avait donné l'habitude de gagner son pain à l'aide des misères humaines.
« Eh bien, venez, mes enfants, » dit la vieille, qui avait repris son allure habituelle.
Elle précéda Michel et Simone par un bref couloir, suivi d'une chambre basse, puis elle monta un escalier, ouvrit une porte vermoulue et chuchota
« Je crois qu'elle s'éveille !»
Ils virent sur un oreiller couvert d'une telle chambre le magnifique visage pâle et la grande chevelure ténébreuse de Francisca. Elle venait d'ouvrir les yeux. Ses grands yeux d'ombre de lumière semblait encore à demi-voilé par un songe.
« Doucement, tout doucement !» murmura Madeleine.
Simone se dirigeait vers le lit de son pas léger jusqu'à ce qu'elle fût auprès de la jeune femme. D'abord, l'œil de Francisca demeura vague, puis une lueur y parut, puis une tendresse inquiète et craintive.
« C'est moi, ma reine !» fit tout bas mademoiselle de Vaugelade. « C'est moi, Simone !»
Le regard dont elle enveloppait Francisca calmait un peu la malade. Michel, entraîné par une impulsion irrésistible, s'avança à son tour. Un trouble formidable soulevait sa poitrine. Ses yeux de feu se fixèrent passionnément sur Madame d'Escalante. Ce regard de passion et de prière agissait comme une force matérielle. Les paupières de Francisca palpitaient. Elle balbutia d'une voix lointaine.
« Michel, oh c'est Michel !»
Et tout de suite après, la première reconnaissance entraînant la seconde.
« Oh petite Simone !»
Ce fut un de ces minutes de féerie, de sécurité miraculeuse, de tendresse condensée où l'homme oublie la férocité du monde et de ses pièges. Soudain le drame reparut, le drame qui déchire l'âme humaine, comme la foudre déchire les nuages. Une horreur innommable dilata et contracta alternativement le visage de Francisca. La forêt meurtrière développa ses pénombres.
« Anda, Anda !»
cria la jeune femme. Sa tête était retombée. Les yeux immenses reflétaient l'épouvante sans bornes. Le délire crispait la bouche rouge.
Rosanito, mais comment-il faire de Rosanito ?
Francisca fit entendre une sorte de râle et sombra dans l'inconscience. Le médecin auscultait minutieusement la malade, tandis que la vieille narrait l'arrivée de Francisca blessée au crépuscule, sa fatigue, sa fièvre, ses sursauts. 20 fois elle faisait jurer à Madeleine de la garder sans rien dire à personne, puis elle était prise de délire. D'abord, la fièvre avait été vive, et plus tard, la jeune femme était tombée dans une torpeur profonde. Depuis, elle demeurait affaiblie et obstinément silencieuse. De ci, de là, un réveil, un retour léger de la fièvre, et chaque fois, elle répétait « Personne ne doit savoir où je suis, personne, personne !» Ce qu'il y avait de plus surprenant, c'est qu'elle ne semblait pas se souvenir de son arrivée chez Madeleine, et qu'elle ne parlait jamais, dans les rares moments où elle parlait, que d'une époque lointaine de sa vie, là-bas, en Amérique. Le docteur, homme sûr, écoutait les confidences de la vieille qui pouvaient lui servir pour son diagnostic. Et quand elle eut tout dit, il déclara « Oh, c'est une crise d'amnésie qu'explique l'excès des émotions et probablement aussi une chute au cours de la fuite. Mais puisque vous a reconnu, je pense que cette crise a pris fin. Pour le demeurant, rien à craindre, Madame d'Escalante est bâtie à chaud et à sable. » Le détective demeurait à l'écart. Il rongeait son frein. Il était humilié et, plus encore, furieux contre soi-même. Il cherchait à recomposer la manière dont cette petite fille avait conduit son analyse.